Vous écoutez, on lit pour vous.
Quand la magie prend vie dans les yeux d'enfants en situation de handicap, un texte de Jessica Nadeau, paru le 16 août 2025 dans Le Devoir. Un camp de jour, ça peut marquer un été, parfois toute une vie. Ça réveille des souvenirs enfouis depuis des années, voire des décennies. Dernier texte de cette série, une journée au camp Papillon, un camp de vacances adapté pour les enfants vivant avec un handicap. Un grand sourire illumine le visage de Nathan Renaud Baudin, un adolescent de 17 ans atteint de paralysie cérébrale, lorsqu'il se remémore sa première visite au camp Papillon, l'un des plus grands camps de vacances adaptés pour enfants vivant avec un handicap physique ou intellectuel en Amérique du Nord. C'était en 2016. Depuis, c'est devenu pour lui un incontournable, un moment de liberté et de ressourcement dans la nature avec lequel il renoue chaque été. Un vent doux fait bruisser les feuilles par une chaude journée de juillet. Au loin, on entend le rire d'enfants qui se rafraîchissent dans les jeux d'eau. D'autres se promènent, à pied ou en fauteuil roulant, sur les sentiers de ce vaste havre de paix au bord du lac Pierre, à Saint-Alphonse-Rodriguez, dans la Naudière. À l'ombre d'un arbre, Nathan semble le plus heureux des hommes. Dans son fauteuil roulant, il rit lorsqu'il tente de faire émerger de sa mémoire les souvenirs de son premier été ici. La première fois, je me rappelle, il y avait du ski nautique. Je me souviens de m'être dit « Je vais retourner faire du ski nautique chaque fois ». Ça apportait du plaisir et du bonheur, aller sur l'eau, se faire tirer sur les skis et les vagues qui sautent. Le ski nautique adapté pour les enfants en situation de handicap est indéniablement l'une des activités favorites des campeurs, affirme la chef de camp Noémie Allard-Gauthier, alias Pickle. En riant, elle raconte que les habitués demandent, dès leur arrivée, à quel moment ils feront du ski nautique et s'ils peuvent être les premiers à passer. Le plaisir, on le voit tout de suite, lance Pickle. Si certains, comme Nathan, sont capables d'exprimer avec des mots le bonheur que l'activité leur procure, d'autres non-verbaux le communiquent autrement. Sur l'eau, on a des jeunes qui ont des comportements qu'ils n'ont pas d'habitude, explique Pickle avec émotion. La semaine passée, on a eu un jeune qui est très taciturne. Il n'est pas vraiment intéressé par ce qui se passe autour de lui. Et quand on l'a mis dans l'eau, il s'est mis à rire. Il ne rit pas dans la vie, ce jeune-là. Et quand il est ressorti, il faisait des signes qui nous permettaient de comprendre qu'il avait aimé ça. Émerveillement. Sur l'eau. Sur l'immense quai, l'équipe de bénévoles de la Fondation des sports adaptés installe le jeune Émile sur une chaise fixée sur une planche et des skis. On le fait glisser doucement sur un tapis et une autre équipe l'accueille dans le lac. Émile émet des petits gémissements au contact de l'eau froide. L'équipe le rassure, tente de le convaincre de reculer jusqu'au fond de son siège pour éviter qu'il ne chavire vers l'avant. Deux bénévoles s'installent de chaque côté, assis eux aussi sur des skis adaptés, et tiennent la chaise d'Émile. Puis le trio décolle, tiré par un bateau arborant un drapeau de pirate. Émile fait un petit tour sur le lac, glissant sur les vagues, puis revient au quai, sourire aux lèvres, sous les applaudissements et les félicitations du personnel et des bénévoles. Certains, comme Émile, se tiennent sur la chaise tout le long de l'aventure. D'autres se laisse porter par la liberté d'être sur l'eau, comme Rose, 10 ans, qui agite ses petits bras dans tous les sens, même revenue sur la terre ferme. Au son de la musique de Katy Perry, une autre adolescente revient au quai les yeux brillants. Elle fait le tour des gens près du quai, désignant avec un immense sourire les skis nautiques dans l'eau et répète « Regarde, regarde », complètement émerveillée par l'expérience qu'elle vient de vivre. Leur bonheur est contagieux et la scène, dans son ensemble, fait du bien à l'âme. On fait triper les jeunes, ce sont des souvenirs qu'on crée pour eux. C'est pour ça qu'on fait ça, dit avec enthousiasme Yann Martin, directeur général de la Fondation des sports adaptés, qui fournit l'équipement et l'expertise au camp Papillon tous les jeudis. Lui-même, en fauteuil roulant, il a appris à faire du ski nautique adapté de façon autonome pour accompagner les jeunes dans l'eau au même titre que les bénévoles sans handicap. Tu me donnes le choix entre faire une ride tout seul ou accompagner les participants. C'est sûr que je choisis les participants, dit-il avec un grand sourire. Des pleurs en arrivant et en repartant. Nathan se souvient aussi de la première fois où il a pris l'autobus pour se rendre au camp. J'étais vraiment stressée. Le fait de partir dans un endroit où je n'étais pas habituée d'aller, ça a fait un électrochoc, raconte-t-il. Je me rappelle, je hurlais dans l'autobus. Sa mère, Stéphanie Renaud-Baudin, n'oubliera jamais ce moment où, le cœur serré, elle a entendu son fils crier « Maman, je veux débarquer !» au moment où l'autobus commençait déjà à s'éloigner. Mais quand il est revenu, la première chose qu'il a dit en sortant de l'autobus, c'était « Je vais y retourner l'an prochain, hein ?» se rappelle-t-elle en riant. Au camp, c'est ce qu'on explique aux parents. Ça pleure souvent en arrivant la première fois, mais ça pleure aussi en repartant, confirme la directrice générale de la Fondation Papillon, Suzy Guérin. Depuis cet été de 2016, Nathan attend avec impatience le moment où l'autobus le ramène à Saint-Alphonse-Rodriguez. Il apprécie la bienveillance des gens qui s'occupent de lui, les activités sportives et artistiques, les amitiés qui se nouent autour d'un feu de camp, le contact avec la nature. Chaque fois que je me promène dans le camp, ça me fait du bien, confie l'adolescent. À Montréal, je peux me promener autant que je veux, mais ce n'est pas la même chose que de se promener dans la nature. Ici, t'as juste des arbres. Le fait d'envoyer Nathan en camp pour une semaine offre une forme de répit pour les parents, confie Stéphanie. Mais c'est d'abord et avant tout à son fils qu'elle pense, au fait qu'il a trouvé ici une deuxième maison où il peut être lui-même, sans barrière, sans limite et sans jugement, affirme-t-elle. Nathan est handicapé, mais ici, il n'y en a pas de handicap. Les enfants ont la possibilité de faire n'importe quoi, comme n'importe qui. Nathan aime tellement ses séjours au camp Papillon que sa famille a pris l'habitude de louer un chalet adapté sur le site pour passer du temps de qualité tous ensemble après sa semaine de camp. Il aura donc quelques jours de plus avant de franchir le portail à la sortie sur lequel on peut lire « Bon retour à la réalité ». C'était « Quand la magie prend vie dans les yeux d'enfants en situation de handicap », un texte de Jessica Nadeau, paru le 16 août 2025 dans Le Devoir.
Stress, angoisse et incertitude pour des étudiants français. Un texte de Suzanne Colpron, paru le 13 août 2025 dans La Presse. Pour Ambre Chanel, 21 ans, de Nantes, les dernières semaines ont été rythmées par l'attente. Le 11 août, elle devait arriver à Montréal pour commencer un baccalauréat en psychologie à l'Université de Montréal. Tout était prêt. Billets d'avion, logement, valise. Sauf l'essentiel, son permis d'études. Citation. J'ai déposé ma demande début juin. À ce moment-là, les délais affichés étaient de 5 semaines. Là, j'arrive à 9 semaines et je n'ai toujours pas de réponse. Fin de citation, raconte-t-elle. Elle consulte régulièrement le site d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, IRCC, et les groupes Facebook d'étudiants. Citation. Je me connecte sur mon compte IRCC 5-6 fois par jour. C'est quand même assez angoissant. Fin de citation. Ambre est loin d'être la seule dans cette situation. Sur les réseaux sociaux, les témoignages se multiplient. Étudiants français admis, billets achetés, logements trouvés, mais aucun permis en main. Pour étudier au Québec, un étudiant étranger doit d'abord obtenir un certificat d'acceptation du Québec, CAQ, délivré par le ministère québécois de l'Immigration. Ce document est ensuite nécessaire pour demander un permis d'études au fédéral. C'est cette deuxième étape qui bloque. Les délais d'IRCC, annoncés à 5 semaines au début de l'été, ont monté à 10 semaines, et plusieurs dossiers dépassent déjà ce délai. La mère d'Ambre, Morgane Chenel, dit avoir tout essayé. Citation. On a fait le formulaire web, on a appelé l'ambassade de Paris, ma fille a appelé le bureau fédéral de Montréal. On a une amie au Canada qui a écrit à quelqu'un du bureau fédéral, sans réponse. Je suis aussi en contact avec une députée. Fin de citation. Le 11 août, elle a pris l'avion pour Montréal, sans sa fille. Le statut de visiteur. Juliette Bluza, 18 ans, devait décoller le 25 juillet, puis le 30. Citation. On a dû annuler carrément le billet d'avion. Chaque fois qu'on décale, ça coûte 200 euros en plus. Fin de citation, raconte-t-elle. Inscrite à l'École polytechnique de Montréal, elle a déjà un appartement meublé qui l'attend. Citation. Je suis très stressée, très angoissée. Ça me fait pleurer tous les jours parce que j'ai l'impression que mon rêve part en fumée, tout simplement. Fin de citation. Certains ont franchi l'Atlantique, mais avec le mauvais statut. Charlotte Baquet de Sarriac, 20 ans, est arrivée avec un visa de visiteur, faute de réponse d'IRCC. Sa mère, Fanny Baquet de Sarriac, précise. Citation. Sous réserve qu'elle reçoive bien son visa avant sa rentrée le 25 août, il va lui falloir ressortir du territoire, par voie aérienne uniquement, pour repasser la frontière et valider son autorisation d'études. Hyper coûteux et incroyable. Fin de citation. Charlotte confirme. Citation. C'est beaucoup de stress, une impression de vivre dans l'incertitude depuis quasiment 2 mois. Fin de citation. En pratique, même si elle reçoit son permis à temps, elle ne pourra pas le faire valider sur place. Il lui faudra quitter le Canada, prendre un vol international et revenir afin que le douanier lui remette physiquement le document. Aucune procédure interne ne permet d'éviter cette étape. J'aurais choisi le Japon. Alice Laplaigne, 22 ans, inscrite à HEC Montréal, a déposé sa demande il y a 11 semaines. Mon vol était le 11 août. Sa mère, Cécile Estève, explique. Citation. Nous avons été dans l'obligation de partir pour Montréal sans elle, alors que nous avions prévu de l'accompagner afin de l'installer pour une rentrée sereine. Fin de citation. Pour Geoffrey Guérin, 23 ans, et ses 4 amis de Master 2 à l'École universitaire de management de Montpellier, l'inquiétude est totale. Tous doivent effectuer un échange universitaire à l'Université McGill dès la fin d'août pour valider leur année. Citation. On est 5 étudiants français dans le même cas parce qu'on est 5 dans la même classe à faire la même chose à McGill. Fin de citation, explique Geoffrey, inscrit au Graduate Certificate in Business Management. Le billet d'avion pour Montréal est réservé pour le 23 août, 4 jours avant le début des cours. McGill leur a donné jusqu'au 9 septembre pour présenter leur permis d'études. Citation. Si on ne l'a pas d'ici là, c'est fini. Je pense qu'on sera obligé de redoubler. Fin de citation, craint-il. Regrette-t-il son choix? Citation. Si on devait tout refaire, sachant les conséquences, je pense qu'on irait ailleurs, admet l'étudiant. L'année dernière, je suis partie à New York et ça s'est très bien passé. J'avais le choix entre le Canada et le Japon. Je crois que j'aurais choisi le Japon. Fin de citation. Manque de communication. Tous dénoncent le même problème, l'absence d'interlocuteurs et le manque de transparence dans le traitement des dossiers. Citation. Sur Facebook, on voit des gens qui ont déposé leur demande début juillet et qui ont déjà reçu leur permis, et d'autres depuis mai qui n'ont toujours rien. Fin de citation, constate Ambre Chenel. Interrogée sur ces retards, IRCC indique que les délais varient, citation, selon la qualité et la rapidité des réponses aux demandes d'informations ou de données biométriques, la facilité de vérification des renseignements et la complexité du dossier. Fin de citation. On ajoute, citation, qu'une forte demande mondiale, surtout dans les catégories dépassant les cibles prévues, peut entraîner des délais plus longs. Fin de citation. Alors que l'inquiétude grandit chez les étudiants et leurs familles, l'Université de Montréal, UdeM, se fait rassurante. Citation. La situation est habituelle à ce moment de l'année. Fin de citation. Soutien par courriel, Virginie Allard-Caméus, directrice générale d'UdeM International. Elle explique que, citation, les délais de traitement pour la France ont tendance à augmenter au courant du mois de juin. Ces délais diminuent vers les dernières semaines du mois d'août et les étudiants, surtout français, commencent à recevoir leur permis d'études. Fin de citation. L'université dit espérer que, citation, le même scénario se reproduira cette année. Fin de citation. En attendant, chacun guette la notification tant espérée. Pour certains, elle arrivera peut-être juste à temps pour la rentrée. Pour d'autres, il faudra s'adapter. C'était « Stress, angoisse et incertitude pour des étudiants français », un texte de Suzanne Colpron, paru le 13 août 2025 dans La Presse.
Maladie d'Alzheimer. Le lithium pourrait aider à ralentir le vieillissement cérébral, selon les scientifiques. Un texte de l'agence QMI, paru le 7 août 2025 dans le Journal de Montréal. Le lithium pourrait être un élément clé permettant de résoudre de nombreux mystères liés à la maladie d'Alzheimer et au vieillissement cérébral, selon des chercheurs de la Harvard Medical School. Des chercheurs des universités Harvard et Rush ont ainsi découvert que l'absence de lithium dans l'alimentation de souris entraînait une inflammation cérébrale et des modifications associées à un vieillissement prématuré, d'après les résultats d'expérimentation publiés mercredi dans la revue Nature. Ces études, menées sur des souris prédisposées aux altérations cérébrales semblables à celles de la maladie d'Alzheimer, ont démontré qu'une alimentation pauvre en lithium accélérait l'accumulation des protéines adhésives. Ces protéines forment des plaques et des enchevêtrements typiques de cette pathologie, ont expliqué les auteurs de l'étude. Cette carence en lithium a également entraîné une détérioration plus rapide des capacités mémorielles chez ces animaux. Cependant, maintenir un taux normal de lithium chez les souris au fur et à mesure qu'elles vieillissaient semble les avoir protégées des changements cérébraux associés à la maladie d'Alzheimer. Une nouvelle pièce du puzzle. Si ces résultats sont confirmés par d'autres recherches, ils pourraient ouvrir la voie à de nouveaux traitements de la maladie d'Alzheimer, qui touche environ 6,7 millions de personnes âgées aux États-Unis, selon les Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies. Les chercheurs espèrent que cette découverte aidera à assembler les nombreuses pièces du puzzle de la maladie d'Alzheimer. Il s'agit d'un candidat potentiel pour un mécanisme commun conduisant à la dégénérescence multisystémique du cerveau qui précède la démence, a déclaré le Dr. Bruce Jankner, professeur de génétique à la Harvard Medical School, qui a dirigé l'étude. Il faudra beaucoup plus de recherches scientifiques pour déterminer s'il s'agit d'une voie commune ou d'une voie parmi plusieurs autres menant à la maladie d'Alzheimer, a-t-il ajouté. Les données sont très intrigantes. Cette nouvelle étude corrobore des études antérieures suggérant que le lithium pourrait jouer un rôle important dans la maladie d'Alzheimer. Une étude danoise publiée en 2017 a révélé que les personnes dont l'eau potable contenait des niveaux plus élevés de lithium étaient moins susceptibles de recevoir un diagnostic de démence que celles dont l'eau du robinet contenait naturellement des niveaux plus faibles de lithium. Une autre étude, publiée en 2022 au Royaume-Uni, a révélé que les personnes à qui on prescrivait du lithium étaient environ deux fois moins susceptibles de se faire diagnostiquer la maladie d'Alzheimer que celles du groupe témoin. Le lithium est un métal principalement reconnu en médecine pour ses propriétés stabilisatrices de l'humeur. Il est administré aux personnes souffrant de troubles bipolaires et de dépression. Il a été approuvé par la Food and Drug Administration américaine en 1970, mais les médecins l'utilisaient déjà depuis près d'un siècle pour traiter les troubles de l'humeur. C'était maladie d'Alzheimer. Le lithium pourrait aider à ralentir le vieillissement cérébral, selon les scientifiques. Un texte de l'agence QMI, paru le 7 août 2025 dans le Journal de Montréal.
Un tournant dans la lutte contre l'obésité. Un texte de Claudine Saint-Germain, paru le 12 août 2025 dans Le Devoir. L'organisme Obésité Canada a publié hier une mise à jour de ses recommandations de pratiques cliniques dans le Canadian Medical Association Journal. Sans surprise, cette mise à jour concerne principalement les nouveaux médicaments destinés à la perte de poids, les enfants et cousins du fameux Ozempic, qui, lui, est officiellement indiqué pour le traitement du diabète de type 2. En ce moment, 6 médicaments sont approuvés par Santé Canada pour la prise en charge à long terme de l'obésité. Comme le dit Obésité Canada dans sa publication, l'efficacité de ces médicaments pour aider à perdre du poids et réduire les complications de santé associées à l'excès de poids a été démontrée. Même si ces médicaments comportent des effets indésirables, principalement gastro-intestinaux, comme des nausées, aucun doute, ils fonctionnent, contrairement aux douzaines de pseudo-traitements miracles promus puis oubliés dans les dernières décennies. Il s'agit là d'une avancée majeure en santé publique, considérant le nombre de personnes touchées. Selon l'Institut national de santé publique du Québec, la prévalence de l'obésité abdominale, la forme jugée la plus dommageable, a plus que doublé en 20 ans, touchant près d'une femme sur deux et un homme sur trois. Des chiffres très inquiétants, étant donné que l'obésité est liée à plusieurs problèmes chroniques, comme les maladies cardiovasculaires, le diabète, les troubles musculo-squelettiques et certains cancers. Depuis toujours, les personnes souffrant de surpoids reçoivent du corps médical sensiblement le même message. Il ne tient qu'à elles de maigrir pour être minces comme tout le monde. Si seulement ils se mettaient au sport et aux salades, tout rentrerait dans l'ordre. Hélas, la hausse constante du taux d'obésité a démontré que c'était loin d'être aussi simple. Même la multiplication des régimes minceurs, des groupes de soutien et des gourous en tout genre n'y a jamais rien fait, hormis peut-être exacerber le problème et rendre les personnes encore plus convaincues qu'avant qu'elles n'ont qu'elles-mêmes à blâmer. On sait aujourd'hui que le poids des individus est fortement lié à leur prédisposition génétique, à leur environnement, à leur travail, à leur santé physique et mentale. On sait aussi que la sédentarité et l'abondance alimentaire qui caractérisent les sociétés occidentales depuis un demi-siècle ont des effets profonds sur le corps humain, conçus à la base pour s'adapter à une vie rude et des disettes récurrentes. Si faire de l'activité physique et bien s'alimenter est une excellente idée pour tous, il apparaît de plus en plus illusoire de penser contrer l'épidémie d'obésité en s'appuyant seulement sur ces beaux principes. C'est ici que la médication entre en jeu. À défaut de refaire le monde dans lequel nous vivons, il existe maintenant une façon de combattre ces effets obésogènes avec des molécules qui, en ciblant certaines hormones, diminuent l'appétit et la compulsion à manger. Les mécanismes précis ne sont pas connus à 100%. La science à leur sujet est relativement jeune, mais les études montrent clairement des pertes de poids représentant de 5 à 20% de la masse corporelle. Le hic, bien sûr, est leur coût. Un traitement de Wegovy coûte environ 400 $ par mois et il est prescrit à vie. Pas surprenant que Novo Nordisk, le fabricant de l'Ozempic et du Wegovy, ait aujourd'hui une valeur équivalente au produit intérieur brut du Danemark, le pays où il est basé. Les assureurs privés canadiens voient une augmentation marquée de leurs coûts liés à ce type de médicaments qu'ils refilent bien sûr à leurs clients. C'est aussi un frein à la couverture par les régimes publics d'assurance maladie, les provinces craignant avec raison de voir leur budget saigner à blanc par une demande massive pour ces coûteux médicaments. On peut toutefois croire que ces prix sont appelés à baisser, puisque de nouveaux produits arriveront sur le marché sous peu et que des médicaments génériques suivront. Les provinces peuvent également s'allier entre elles pour négocier un meilleur prix auprès des fabricants, comme cela se fait pour d'autres médicaments. Il faudra y venir, sous peine de créer deux catégories de citoyens. Ceux qui ont les moyens de combattre l'obésité et les autres. Il faudra aussi poursuivre les efforts d'éducation et de sensibilisation à propos du poids dans la société. Si prometteurs soient-ils, ces médicaments ne sont pas miraculeux et n'annoncent pas l'arrivée d'un monde où tous sont aussi minces les uns que les autres. Chacun a le droit de gérer son corps et sa santé de la manière qui lui convient, sans pression ni jugement, qu'il décide de faire appel à la pharmacopée ou pas. Reste que le changement de paradigme est majeur et que le système de santé, incluant les régimes d'assurance, devra en tenir compte. C'était « Un tournant dans la lutte contre l'obésité », un texte de Claudine Saint-Germain, paru le 12 août 2025 dans « Le Devoir ».